France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, c'est la catégorie de population dans laquelle l'épidémie de Covid grimpe le plus si l'on regarde le taux d'incidence, les 20-29 ans. Beaucoup de ces jeunes sont étudiants et vous les côtoyez chaque jour. Dominique Monchablon, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Vous êtes effectivement l'invité du 5-7, vous êtes psychiatre, chef du service du relais étudiant lycéen de Paris au sein de la Fondation Santé des étudiants de France, également présidente du réseau RESPE, c'est une structure de soins réservée aux étudiants en Île-de-France. Est-ce que la peur de tomber malade fait partie des angoisses qu'expriment les étudiants qui viennent vous voir ?
Alors, actuellement, bien sûr, les étudiants sont soumis aux mêmes angoisses que la population générale, c'est-à-dire l'insécurité sanitaire, mais elles pèsent de manière différente sur eux. Beaucoup plus l'inquiétude de tomber malade pendant les examens ou des concours décisifs que, qu'un péril pour leur vie. Néanmoins, cette inquiétude persiste dans un souci, je dirais, une sollicitude vis-à-vis de leurs parents, leurs aînés. Il y a eu un fort soutien intergénérationnel pendant cette crise sanitaire. Et ils sont soucieux de l'environnement familial. Il y a eu pas mal de décès dans les familles.
Et en plus, en ce moment, c'est une période compliquée pour eux. C'est la période des partiels qui, déjà en temps normal, est un moment de stress pour les étudiants. C'est encore plus marqué que d'habitude cette année.
Les étudiants sont... J'ai participé à la rentrée d'amphithéâtre dans une université parisienne, dans plusieurs grandes écoles, dans classe prépa. Les étudiants sont particulièrement graves cette année, sérieux, concentrés. Je pense qu'ils sentent la menace d'une année universitaire qui risque d'être invalidée encore par une nouvelle fermeture. La question se repose aujourd'hui avec une pandémie galopante.
Et là, en plus, les partiels sont en présentiel. D'ailleurs, il y a pas mal d'étudiants à Aix-Marseille, par exemple, à Panthéon-Sorbonne aussi, qui demandent le report des examens parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans un lieu clos avec tout plein d'autres étudiants au moment de plancher.
Oui, je pense que le risque est quand même moindre, a priori, pour ces étudiants qui sont, dans l'ensemble, dans une loyauté totale au système de soins, déjà, aux préconisations. Ce sont des jeunes qui font alliance avec la science. Sinon, on n'est pas étudiant si on n'est pas en alliance avec la science. Et pour la plupart, ou l'ensemble de nos consultants, déjà vaccinés, on attend de leur dose de rappel. Donc vraiment très soucieux des mesures sanitaires, en tout cas en amphithéâtre et en milieu universitaire. C'est pas tout à fait la même chose en milieu festif, le week-end ou pendant les vacances, mais ils restent quand même très concentrés sur ces consignes sanitaires.
Est-ce qu'il y a des profils plus fragiles que d'autres face à tout ce qui tout ce Covid et les conséquences du Covid ?
Alors, ça a été la grande découverte de la crise sanitaire, c'est que cette crise sanitaire a été un moment d'accélération, de révélation de fragilités préexistantes. Ces fragilités, ça peut être des fragilités constitutionnelles, développementales, et notamment au regard des troubles de l'humeur et des troubles anxieux ou des troubles addictifs. Ça peut être également la réactualisation de psychotraumatismes antérieurs de l'enfance ou de l'adolescence à l'occasion de cette crise sanitaire qui était au début, je dirais, assimilable à un psychotrauma collectif. Donc une forte incidence de troubles psychologiques dans cette population, beaucoup plus que chez les jeunes du même âge non étudiants. C'est une étude très intéressante qui a été faite par l'excellente équipe de Bordeaux, sous la direction du professeur Tsourio, et qui a fait une étude comparative sur l'impact de la crise sanitaire chez les étudiants et chez les non étudiants.
Donc c'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question d'âge. Alors après on reviendra sur l'âge, mais c'est vraiment, je dirais, un impact qui a été majoré par, je dirais, la dislocation de la vie de la communauté universitaire, de ce formidable support universitaire pour les étudiants, le sentiment d'isolement, un cumul de facteurs de stress liés au téléenseignement, à la précarité financière, puis à l'inquiétude globale. Les étudiants ont particulièrement fait les frais de leur isolement pendant cette année universitaire précédente, 2020-2021.
Les gens qui viennent vous voir, c'est pour une ou deux fois ou certains ont besoin d'une prise en charge vraiment plus longue ?
C'est une très bonne question. Le Covid a eu un effet positif, si je peux m'exprimer ainsi, qui a été de déstigmatiser la dépression, les troubles anxieux et aussi la consultation psychologique, qui était fortement stigmatisée en France.
C'est-à-dire les jeunes n'osaient pas frapper à la porte d'un psy ?
Absolument, ils n'osaient pas. D'abord, les jeunes n'aiment pas appeler à l'aide. l'aide, hein, que ça soit sur le plan financier déjà, que ça soit sur le plan académique, hein, ils n'osent pas demander à leurs enseignants, ils n'osent pas non plus demander du soin. Voilà. Et donc, l'effet, je dirais, de la pandémie a fait que ces jeunes ont osé faire la démarche parce qu'on a suffisamment, ça a été largement relayé dans la presse et on vous remercie, ils ont osé faire cette démarche. Donc, l'ensemble, ce sous-groupe de population qui a fait la démarche, on va dire que 75% d'entre eux présentent des troubles réactionnels à la pandémie et ses effets sur, je dirais, le cursus universitaire et l'entrée en stage. On va peut-être en parler, c'est tout à fait spécifique des étudiants aussi. Mais 25%, hélas, pour 25% d'entre eux, cette crise sanitaire a été le révélateur de fragilité et déjà l'installation de la maladie dépressive ou de la maladie anxieuse. Et c'est pour cela qu'il faut aller vite et entreprendre des soins rapidement et des soins médicalisés, pas seulement un accueil psychologique.
Vous avez souligné cette déstigmatisation. Est-ce que le dispositif du chèque psy a participé aussi à cette déstigmatisation? Est-ce que d'abord ça existe toujours? Est-ce que ça a été utilisé? Est-ce que ça a été beaucoup utilisé?
Alors, tout à fait, ce chèque psy va dans le bon sens, même s'il a été fortement commenté par les psychologues, les psychiatres, la communauté sanitaire, on va dire.
Hein, je rappelle juste en un mot, ça a été mis en place il y a à peu près un an et ça donne droit à 8 séances chez un psychologue, c'est ça?
Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, en fait, depuis 2018. Rappelons un petit historique, un retard historique de prise en charge des étudiants entre le rapport Vauquiez 2006 et l'avènement de la CEVEC 2018. L'avènement de la CEVEC a permis enfin à une mobilisation, je dirais un renforcement des structures de soins psychologiques. Ça, c'est bien, ça a été formidable. Le chèque psy va dans ce sens. Hein. C'est une mesure nouvelle qui a été improvisée un petit peu à la hâte, donc évidemment imparfaite, mais très utile, mais sur une durée extrêmement limitée, hein, 3 plus 3, ça fait 6 entretiens. Nous avons l'habitude à la Fondation de travailler sur des prises en charge très courtes et qui sont très efficaces, mais il faut une certaine technicité.
Une dernière question, il nous reste quelques secondes. Quand ça va pas, quand un étudiant va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quelle porte on frappe? Est-ce qu'il y a des structures, par exemple, dans toutes les facs?
Alors, bien sûr, dans toutes les universités, services universitaires, services de médecine préventive, les pairs aussi, on a développé un système de pairs aidants au sein des universités, les lignes téléphoniques, je cite Nightline. Bien entendu, les bureaux d'aide psychologique universitaire dans les villes universitaires qui en sont pourvus. Tous les portes d'entrée, y compris la porte d'entrée sociale, et voir l'assistante sociale demander des conseils, tout fonctionne.
On trouvera donc toujours au moins un endroit pour avoir une écoute. Merci beaucoup Dominique Monchablon, vous étiez l'invité du 5-7.